Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gilbert Sepp, professeur d'économie à Neoma Business School, qui a coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. François Eckal, le fondateur de Fipeco.fr. Dernière note d'actualité, qu'est-ce que c'était sur Fipeco ?
Sur la redistribution entre les régions opérée par prestations de cotisations sociales, impôts sur les ménages et puis les grands services publics. Montrer que c'est surtout l'Île-de-France qui paye pour les autres régions et que les départements, les régions d'outre-mer sont quand même particulièrement aidées.
Franchement, si vous voulez savoir et comprendre, tout est disponible et c'est gratuit. Fipeco.fr. Professeur d'économie à Paris. Leonidas Kalogeropoulos, le PDG de Médiation et Argument, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project, qui a fondé les Entrepreneurs pour la République et publié Manifeste des Entrepreneurs pour la République, la nation au service de l'intérêt général. C'est publié aux éditions Ballant. Pas mal de réactions. Bonjour, j'ai l'impression que la nouvelle première ministre a une vision sociale identique presque aux politiques communistes. C'est la fin de la société libre et de l'ascenseur social basé principalement sur le travail et les capacités de chacun. J'en ai d'autres. Pourquoi ne pas payer l'énergie en fonction du niveau de consommation, ce qui serait plus juste et incitatif ? Et si je remonte un peu, la plupart des gens ont des cartes de fidélité, l'État pourra en mettre une. Ah, 68 ans, écrit Guigui. Je n'imaginais pas connaître une économie soviétique en France. Eh bien, c'est fait. Je vais m'entraîner à tendre la main, moi aussi, pour recevoir mon obol étatique. Des prix variables selon les revenus, écrit Monsieur Fusion. Même Marx n'y avait pas pensé. Bon, c'est voilà. C'est...
Nicolas Dose a fait mieux que...
Non, mais...
Il a cru.
Bon.
Nicolas Marx.
Systématiquement pour les cassos, écrit ICDC. Voilà, vous voyez, ça tombe comme à Gravelotte. Hein. Qu'est-ce qu'on en était où ? On en était aux Uber Fights.
ITC, Uber.
Bon, allez-y, Gilbert.
Oui, juste quelques points, car je suis complètement en accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Les VTC, en France, 40 000 emplois. 40 000 emplois qui ont été créés, à peu près, hein, ouais, c'est un chiffrage approximatif. 40 000 emplois créés dans les VTC. Est-ce qu'on peut s'en passer de 40 000 emplois ? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ces 40 000 emplois, c'est pas pour n'importe qui, comme vous l'avez dit, Nicolas. C'est souvent des gens à qui ça permettait de mettre un pied sur le marché du travail, et ce pied sur le marché du travail, dans beaucoup de cas, ils l'auraient pas mis.
C'est clair.
Ça, c'est le deuxième,
ne pas le voir,
deuxième point important. Troisième point, le bien-être du consommateur, quand même, qui est moins rationné, du touriste en particulier, qui est moins rationné dans les grandes villes, comme il l'était auparavant, quand il voulait un taxi.
Mais là, vous êtes sur le fond des VTC, Gilbert. Vous n'êtes pas sur la polémique qui va monter.
Oui, mais quatrièmement, les taxis se sont opposés à toute réforme pendant des décennies.
Oui, mais on est d'accord.
Et Nicolas Sarkozy s'y était cassé les dents.
On a installé un marché noir de la plaque d'immatriculation à 200 000 la plaque. Un marché noir officiel mis en place pratiquement par l'État lui-même.
La plaque est à peu près revenu à 200 000, donc finalement, les taxis ne semblent pas avoir souffert d'une façon
Celui qui a payé 250 000, une plaque qui vaut 100 000 aujourd'hui...
Aujourd'hui, elle est beaucoup plus qu'à 100 000, hein,
oui. À Paris. Elle est remontée.
Elle est pas loin de 200 000.
Je suis pas un spécialiste de la cote de la plaque.
On est dans une situation où les VTC ont créé une offre qui a produit de l'activité. Cette activité, c'est de l'emploi. Cette activité, c'est des revenus pour un ensemble de
personnes. Personne ne remet en cause aujourd'hui.
C'est des impôts prélevés, etc. Alors, par ailleurs, il faut bien voir que les VTC, les conducteurs de VTC, comme les livreurs, sont des personnes qui souffrent d'un déficit de protection par rapport aux salariés. Et bien justement, la France, et la France présidée par Emmanuel Macron, est le pays qui essaye d'avoir une approche originale pour renforcer les protections de ces personnes.
Entre autres, on n'est pas au bout de l'histoire, mais ça a commencé les négociations.
Par l'organisation d'un dialogue social dans ce genre d'activité qui permettra d'élaborer des normes protectrices, que ce soit pour le revenu minimum, que ce soit pour les conditions de travail et le maximum d'heures travaillées, par exemple, comment en bénéficient les salariés, que ce soit pour les conditions de séparation, puisque pour l'instant c'est une simple déconnexion pour ces travailleurs-là, tandis que des salariés peuvent évidemment aller en prud'homme. Donc sur une quantité de domaines, des protections doivent être élaborées par ce dialogue social. Voyons si ça marche. Mais pour l'instant, c'est gagnant pour tout le monde.
Vous êtes vraiment sur le fond du sujet des VTC et l'idée n'est pas de remettre en cause aujourd'hui leur existence, c'est de savoir justement comment on peut créer un cadre social qui soit acceptable. Et le sujet d'ailleurs.
Absolument.
Mais là, on est vraiment sur cette idée. Très vite va être inscrit le mot scandale devant. Comment Macron a fait le jeu d'Uber lorsqu'il était à Bercy. C'est comme ça que les choses vont être comprises. Votre avis là-dessus? Parce que j'aimerais bien qu'on raconte, Léonidas, le fonctionnement normal et légal des lobbies auprès des élus lorsque des textes de loi les concernant sont en discussion. On n'est pas dans quelque chose de lunaire là.
Pas du tout. Voilà. Dans quelque chose qui est vraiment le job normal.
Le job normal. Et Macron était encore une fois depuis longtemps, bien avant Bercy, totalement convaincu de la nécessité de libérer ce secteur des taxis.
Mais moi,
Armand Rueff en 61 disait déjà qu'il fallait sortir de cette histoire de numerus clausus. Alors allez-y.
Et moi, il y a 35 ans, j'étais fonctionnaire au ministère des Finances, payé par l'État et pas par Uber. J'écrivais des notes recommandant d'ouvrir ces marchés réglementés, celui des taxis, celui des notaires et des tas d'autres, et en rappelant effectivement que malheureusement, ça avait déjà été recommandé par le rapport Rueff-Armand en 1961. Voilà. Voilà. Mais que malheureusement, le dossier était bloqué depuis cette époque. Donc quand Macron, je dis, a réussi à débloquer ce dossier, j'ai applaudi. Absolument. Et inévitablement, il fallait négocier, il fallait discuter avec les uns, avec les autres, avec Uber d'un côté, avec les taxis de l'autre, pour arriver à trouver des compromis. C'est normal, il a réussi à débloquer ce dossier. Donc bravo Macron.
Les compromis qui avaient été trouvés étaient de réserver notamment les couloirs de bus exclusivement aux taxis, les VTC n'ayant pas accès à ces couloirs de bus, et de laisser aux taxis la possibilité de pratiquer la maraude. Hein. Vous levez la main sur le trottoir, ils s'arrêtent, les VTC n'ont pas le droit de le faire.
Mais je voudrais juste, parce que c'est très intéressant ce que vous venez d'indiquer, en 61, c'est-à-dire qu'il a fallu quoi, 40 ans pour arriver à débloquer. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu 40 ans? Parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Moi, je me souviens d'avoir accompagné les nouveaux entrants de la télévision numérique de terre face aux acteurs installés, et notamment ce qui fait que nous sommes sur cette chaîne et j'en suis ravi sur la TNT. Qu'est-ce que me disait à l'époque le président du CSA, qui avait été le grand pourvoyeur de la réforme technologique et juridique de la TNT? J'aurais jamais rien pu faire s'il n'y avait pas eu des entreprises qui avaient été là pour offrir une alternative. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un sujet qui est bloqué pendant 40 ans arrive à se débloquer? C'est qu'il y a une offre qui arrive. Il y a une entreprise qui vient avec une volonté. Et le choc technologique, bien entendu.
Entreprise dans le rouge depuis sa naissance.
Mais en tous les cas, Uber arrive avec une offre, et celui qui porte la loi pour le désenclavement de l'économie et les nouvelles chances économiques dit: je prends le sujet et je le pousse. Et il dit à ses interlocuteurs: il va y avoir une loi, faites aller voir un tel pour les amendements. Donc il fait quoi? Il dit, globalement, essayons de faire en sorte que l'on trouve des alliés. C'est ça une stratégie de lobbying. Ce sont des arguments et des alliés. Donc on trouve des alliés parlementaires, on trouve des alliés dans l'appareil gouvernemental, et on fait passer les infléchissements juridiques pour que l'innovation puisse s'introduire. Sinon, c'est bloqué. Et lorsque l'on parle de stratégie, en face, il y avait quoi? Il y avait le monopole des taxis qui défendait bec et ongle la préservation du monopole. Donc oui, il y a eu un moment de tension. Mais où est l'argent? Où est la rémunération? Je suis un lobbyiste, je suis rémunéré. Les entreprises me payent pour aller faire ce travail qui consiste à trouver les bons arguments, à les bâtir techniquement et à constituer
les bâtir
des alliés.
Techniquement, il est normal d'arriver avec des amendements clés en main, déjà quasi rédigés.
Vous savez, arriver à trouver quel est l'endroit où juridiquement un sujet est bloqué pour arriver à trouver la manière de le débloquer, c'est une technicité, c'est ma technicité, c'est ce que je sais faire. Il faut trouver, si c'est un décret, il faut trouver ça dans l'appareil d'État, parce que c'est de l'exécutif. Si c'est législatif, il faut trouver les parlementaires. Donc oui, il y a une technicité. Et puis, il faut trouver des alliés. Mais tout cela est parfaitement normal. Qu'est-ce qui a été introduit depuis la loi sur ce qu'on appelle Sapin 2? Il y a une haute autorité de la transparence sur la vie publique. Et quand vous allez voir des politiques, il faut le déclarer. Donc maintenant, il y a un registre et on est déclaré. Tout ça est totalement balisé. Il n'y a rien de sulfureux dans ce qui est décrit. La seule chose qui soit sulfureuse, c'est le parfum des termes utilisés pour avoir tout un lexique d'expression autour de cette affaire pour essayer de dire qu'il y aurait quelque chose de sulfureux. Il n'y a rien de contestable, et le résultat, Gilbert Saint a dit tout à l'heure, il est positif, positif pour les gens qui ont trouvé du boulot, positif pour le consommateur et même positif pour les taxis, parce qu'ils se sont extrêmement modernisés, parfaitement adaptés, et ils ont très bien joué le jeu dans la distance.
Et c'est pour l'activité, pour les impôts prélevés, pour
bien sûr.
C'est votre sujet, universel. La loi pouvoir d'achat sera le 18 juillet. Bon, vous connaissez le contenu maintenant, on avait tous les détails, y compris l'indemnité carburant travailleurs et travailleurs gros rouleurs pour remplacer les 18 centimes de ristourne par litre qui tomberont au mois d'octobre à 12 et au mois de novembre à 6 centimes, peut-être zéro début décembre ou peut-être un tout petit peu, mais plus rien à la fin décembre. Et le terrain d'affrontement à l'Assemblée, ça va être le SMIC. Ça va être le SMIC. Vous avez la France Insoumise qui ne transigera pas sur l'idée que le SMIC, peu importe, pas forcément 1500, il doit être 15% au-dessus de son niveau. Donc si là il est à 1300 de net, s'il passait à 1350 net, il dirait il faut 15% de plus. Donc un énorme coup de pouce sur le SMIC. Vraiment, le PS aussi maintenant est arc-bouté sur le SMIC à 1500. Comment vous... On a déjà l'un des SMIC les plus élevés par rapport au salaire médian. Vous êtes président du groupe d'experts sur le SMIC. Comment vous, vous vivez ce qui est devenu une sorte de chiffon rouge parlementaire?
Oh, écoutez, il n'y a rien de nouveau.
Quand même.
Appeler un relèvement du SMIC, c'est quelque chose de pavlovien pour certains. Parce que
vous allez vous faire insulter dans 5 minutes. Hein.
C'est facile.
Avez-vous déjà vécu avec un SMIC, monsieur Sept?
Monsieur Sept, pardon. D'abord, personne ne vit avec seulement un SMIC. Prenons le cas d'un célibataire à temps plein qui est au SMIC. Il reçoit 240 euros par mois.
De prime d'activité.
Donc, vous voyez, il faut quand même mettre les choses... Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent au SMIC, et je ne parle pas évidemment des tarifs, du logement social, etc. de ce genre de choses. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, les personnes, les travailleurs au SMIC ont eu leur pouvoir d'achat complètement protégé par l'augmentation du SMIC. Encore une fois, sur les 12 derniers mois, le SMIC a été relevé de 5,8%. Il devrait encore l'être cet été, très probablement, et puis au 1er janvier prochain. Il y a beaucoup de salariés qui ont bénéficié d'une augmentation de 5,8% sur les 12 derniers mois. Je ne crois pas, eux, leur pouvoir d'achat, fort heureusement, était totalement protégé. On est tout à fait dans le registre des dispositions ciblées qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis le dernier point, c'est que je renvoie tout le monde au rapport de notre groupe d'experts qui, chaque année, montre comment on peut lutter efficacement contre la pauvreté et la pauvreté laborieuse. Quelqu'un qui est au SMIC, c'est quelqu'un qui travaille et donc qui fait partie éventuellement des travailleurs pauvres. Eh bien, ce qu'on montre, c'est qu'une augmentation du SMIC peut se retourner contre les bénéficiaires de cette augmentation si elle est trop forte. La seule étude vraiment approfondie, par exemple, dont on dispose sur l'augmentation très forte du salaire minimum en Espagne, 22% en 2019, c'est que la même année, ça a détruit entre 90 000 et 180 000 emplois. Sur les travailleurs... Concernant les travailleurs les plus fragiles, peu qualifiés, etc. Donc, ce que le rapport du groupe d'experts dit chaque année, c'est attention à bien cibler les moyens de lutter contre la pauvreté laborieuse. Et pour vous donner un exemple, je pourrais en donner des quantités. Ce qui compte, ce qu'on montre dans ces rapports, c'est que les principaux facteurs de pauvreté sont le nombre d'heures travaillées, l'insuffisance du nombre d'heures travaillées, d'une part, et puis bien sûr, l'importance, les charges de famille, quoi. Et c'est plus difficile avec 5 personnes qu'avec une seule bouche à nourrir. Et les plus pauvres parmi les travailleurs au SMIC sont les gens qui connaissent un temps partiel contraint. Je veux dire, on n'en parle pas. Et là, travailler de façon...
C'est un salaire horaire, le SMIC. Hein,
voilà, c'est un salaire horaire.
Oui, il faut
horaire.
Le rappeler toujours.
Beaucoup de gens le mensualisent, mais c'est un salaire horaire.
Oui, parce que c'est quand il est mensualisé qu'on le perçoit.
Mais les gens qui travaillent 20 ou 24 heures par semaine, voire moins, au SMIC, là, sont très pauvres.
Oui, bien sûr.
Et ce sur quoi il faut travailler... c'est sur le fait que ces gens-là puissent passer de 20-24 heures à un temps plein. Et ça changerait autrement leur situation de pauvreté qu'une augmentation de 10 ou 15% du SMIC.
Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer en Allemagne. On est à 9,82 de l'heure actuellement. On passe à 12 euros au 1er octobre.
Juste un point. Cette augmentation du salaire minimum allemand avait été décidée au moment de la constitution d'une alliance tripartite en Allemagne. Même dans le contexte de forte inflation en Allemagne, il n'a jamais été question de revoir les 12 euros de l'heure. Hein, alors qu'au moment où ça a été conclu, on était bien en dessous.
Il n'y avait pas de SMIC avant 2015.
Et les Allemands sont à 2 points d'inflation au-dessus de nous.
12 euros, c'est supérieur à notre SMIC
On va le rejoindre en 2023.
On doit pas en être bien loin. Voilà. Par rapport à ça, François Eckhall.
Oui, si les hausses du SMIC détruisent des emplois, hein, comme ça a été le cas en Espagne, c'est parce que ça augmente le coût du travail pour les entreprises. Donc quand j'étais à nouveau à Bercy, il y a déjà au début des années 90, on s'est dit bah il faut augmenter le SMIC, mais ça risque de détruire les emplois. Quelle est la solution? Bah la solution qu'on avait trouvée à l'époque, c'est les allègements de cotisations patronales. Oui. Donc dès Balladur 93, on a commencé à faire des allègements de cotisations, et puis au fur et à mesure qu'on augmentait le SMIC, on augmentait les allègements de cotisations. Le problème aujourd'hui, c'est que bah, y a plus de cotisations patronales au niveau du SMIC.
Non, il reste qu'accident du travail et maladie. Bon,
ouais, très peu. Que personne ne veut toucher.
Parce qu'il y a du bonus qui sont très faibles. Donc c'est incitatif.
Voilà, qui sont très très faibles. Donc aujourd'hui, on ne sait plus très bien comment faire. Enfin, si
crédit d'impôt, monsieur Eckhall, crédit d'impôt, vous remplacez une baisse de cotise par un crédit d'impôt. Hein. Allez, on y va.
Non, mais.
Ouais, bah, non, mais c'est un vrai sujet. On était arrivé au taquet de ce qu'on pouvait faire en matière de baisse de cotisation patronale pour éviter justement l'armageddon des hausses de SMIC trop importantes par rapport au manque de qualification des gens de l'autre côté. Mais on pense toujours aux insiders, pas aux outsiders, hein, c'est ça.
Allez-y, je voudrais prendre le sujet avec un angle supplémentaire qui a été évoqué par Bruno Le Maire.
Ah, la pénurie de main-d'œuvre.
La pénurie de main-d'œuvre. Parce que.
Je comprends plus, hein, Leonidas. Hein. Je comprends plus qu'on ait 7% de la population active au chômage et que toutes les entreprises à tous les niveaux de qualification ne trouvent pas.
Il faut parler de cette question de la pénurie de main-d'œuvre parce qu'elle est devenue dramatique pour un certain nombre de secteurs.
Elle est surtout incompréhensible.
C'est le cas. Mais elle n'est pas incompréhensible, c'est le rapport des Français au travail. Il y a une quantité colossale de Français qui ne souhaitent pas rentrer dans le modèle qui est le modèle de référence de l'emploi en CDD. Et énormément, tous les postes qui sont aujourd'hui vacants, qui ne sont pas pourvus alors qu'ils sont disponibles, trouvent preneurs avec des auto-entrepreneurs. Ça veut dire que vous avez des entreprises qui ont le choix entre être obligées de fermer le rideau alors qu'ils ont des clients parce qu'ils n'ont personne pour travailler, ou accepter que le travail soit pris par des auto-entrepreneurs. Ils sont là, ils sont disponibles. Et pourquoi est-ce que les entreprises n'ont pas recours aux auto-entrepreneurs? C'est que vous le savez, à n'importe quel moment, malgré le contrat qui aura été signé entre l'entreprise et l'auto-entrepreneur, n'importe qui, d'abord un contrôleur du travail ou le salarié lui-même, peut aller devant les tribunaux en disant, finalement, on m'a forcé, j'ai pris le job à l'auto-entrepreneur et il faut le requalifier. Et cette crainte de la requalification...
C'est l'histoire de requalifier des indépendants en salariés.
En salariés. Et cette crainte-là bloque la rencontre de l'offre et de la demande, qui est absolument à portée de main, qui est que les emplois vacants trouve preneur en auto-entrepreneur. Le phénomène a pris une telle ampleur, il faut bien admettre et regarder en face que le modèle du salariat ne convient plus à des centaines de milliers de Français qui préfèrent prendre un job en travaillant 2 mois, 3 mois en auto-entrepreneur, changer d'emploi au bout de 3 mois, éventuellement changer de ville pour travailler. Et c'est leur choix. Alors que l'on s'adapte à cette réalité.
C'est qui on s'adapte? Mais lorsque vous arrivez auto-entrepreneur face à une entreprise, de 300 personnes, assez rapidement peut se créer effectivement une forme de subordination où vous avez quand même une pression malgré tout qui existe et où...
Eh bien, il va falloir...
Votre liberté de fournisseur, il y a client-fournisseur, votre liberté de fournisseur peut se trouver un peu attaquée.
Mais il va falloir, Nicolas, que l'on ouvre ce sujet, et vous avez vu que Bruno Le Maire a demandé à un certain nombre de parlementaires de s'occuper de cette question. Il va falloir s'en emparer pour que, lorsqu'il y a un consentement éclairé de part et d'autre, eh bien, le contrat puisse tenir devant des tribunaux et devant le juge prud'homal. Éventuellement, on peut dire que la masse de dépenses en ressources humaines, parce qu'on ne peut pas dire salaire si c'est un auto-entrepreneur, éventuellement accepte une part de 30-40% d'auto-entrepreneurs. Et puis, il va falloir que la législation évolue, parce que s'il y a des centaines de milliers d'emplois à pourvoir et des centaines de milliers de gens qui sont prêts à prendre des jobs en auto-entrepreneur, on va faire comme pour les VTC, bloquer de l'emploi et bloquer de la richesse et obliger les entreprises à fermer.
Oui, alors là, je comprends ce que vous dites.
On est devant un véritable problème. Oui. Même de manière transitoire, on pourrait le tester durant 6 mois.
La clé législative, elle ne me saute pas aux yeux.
Ah ben la clé législative, elle est nécessaire.
Oui, mais elle ne me saute pas aux yeux dans son contenu, dans son mode de fonctionnement, dans sa tuyauterie.
Dans la logique, c'est que vous savez qu'il est d'ordre public que même un contrat signé entre un auto-entrepreneur et une entreprise, si l'auto-entrepreneur n'a qu'un seul client, on puisse se requalifier en salariat, eh bien, c'est d'ordre public, ça veut dire que c'est une nécessité qui va au-delà du consentement des parties. Non, mais je... Donc, c'est ce point-là qu'il faut faut débloquer d'un point de vue législatif pour que on puisse avoir ces centaines de milliers d'emplois qui soient pourvus dès cet été d'ailleurs, puisque vous savez que il y a quantité de restaurants, d'hôtels qui sont obligés de refuser des clients parce qu'ils n'ont personne pour assurer le service.
Vous avez vu ce restaurateur de la Manche qui a même fait un petit clip sur une thématique un peu film policier, parce qu'il arrivait, il a tellement de mal à trouver des bras pour venir servir dans son restaurant qui est au bord de la mer, quelque part dans la Manche, qu'il a fait un petit clip où il y a un candidat qui arrive, et le candidat veut filer parce qu'il veut pas travailler, alors il se fait enlever, on le met dans la camionnette pour surtout le garder pour qu'il ne s'en aille pas parce qu'on manque de bras. Mais voilà, évidemment, c'était une mise en scène.
Est-ce que notre pays peut souffrir le luxe de se priver de travail, de se priver de richesse au moment où on est prêt à déverser des milliards d'euros à cause de l'inflation?
Ce phénomène qui, je l'ai confessé à ce micro à plusieurs reprises depuis quelques jours, finit par, je sais pas, j'en perds mon latin.
C'est vrai que la France est un pays particulier parce que il y a des pays dans lesquels il y a pas de chômage ou un taux de chômage de 3 à 3,5%, dans lesquels il y a beaucoup de difficultés de recrutement. L'Allemagne et les Pays-Bas, mais on le comprend bien. D'autres pays dans lesquels il y a un taux de chômage élevé, l'Italie et l'Espagne, dans lesquels les difficultés de recrutement sont restées assez basses. Au regard du taux de chômage, et c'est en relation avec un taux de chômage assez élevé. En France, on est encore avec un taux de chômage assez élevé et des difficultés de recrutement très fortes. Et c'est là où il y a un paradoxe, c'est là où ça signale, c'est le stigmate d'un mauvais fonctionnement du marché du travail. Alors, de ce côté-là, je dirais, les pistes à envisager, c'est bien sûr essayer d'aboutir à une offre d'emploi peut-être un petit peu plus dynamique. C'est ce qu'a essayé de dire notre président quand il dit que bien, il n'y a pas que des droits, il peut aussi y avoir des devoirs, et les prestataires les bénéficiaires de certaines prestations pourront se voir demander un effort de formation ou des heures de travail collectif ou des... Bon, voilà. En tout cas, c'est une réflexion qui est sur la table, qui paraît pas du tout inadaptée. Je rappelle que des pays comme le Danemark, par exemple, qui sont des pays considérés comme très, très sociaux, sont allés assez loin dans ce type de direction. Et puis, le deuxième point, quand même, il faut l'évoquer, c'est le fait que la négociation de branche en France est très faible. Les acteurs de la négociation de branche sont assez peu actifs. On évoquait les hôtels, cafés, restaurants. Il n'y a pas que les questions salariales. Travailler dans les hôtels, cafés, restaurants,
c'est beaucoup d'efforts.
Pour beaucoup de gens.
Eux, justement, ils
commencent à faire beaucoup d'efforts.
Et pas que sur les salaires.
Ils commencent à faire
des complémentaires santé, voilà. Taillés aux petits oignons.
Oui, complémentaires santé, mais c'est 6 soirs par semaine.
Six soirs par semaine,
parfois du milieu de l'après-midi jusqu'à 11h ou minuit. Bon, ben, c'est vrai qu'il y a une valorisation qui a peut-être été dopée d'ailleurs dans le contexte de la Covid et des confinements. Il y a une valorisation de la vie personnelle, du fait de s'occuper des enfants, d'avoir une vie privée, etc., qui doit inciter dans le dialogue de branche, dans la discussion, dans les négociations de branche, à prendre en compte ces dimensions non salariales. Ça commence dans certaines branches, et en particulier dans les hôtels, cafés, restaurants, eh bien, il faut que ça se prolonge.
Et en France, comment est-ce que vous faites pour avoir des auto-entrepreneurs qui participent à ces discussions? C'est-à-dire que même le modèle du dialogue social et du dialogue de branche en France n'intègre pas le fait que énormément de Français souhaitent travailler autrement. Nous sommes encore bloqués tant dans notre structure de dialogue social que dans nos objectifs un peu collectifs sur un modèle qui manifestement ne correspond plus aux aspirations, vous le décriviez, des gens qui veulent être plus libres vis-à-vis de l'emploi, avoir un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et pour qui le modèle de l'auto-entrepreneur est un modèle qui leur convient. On va bloquer des gens qui veulent travailler et bloquer des entreprises qui veulent les faire travailler parce que c'est pas le modèle sur lequel on a construit notre modèle social dans les années 80. Enfin, il y a quelque chose qui doit évoluer collectivement, et véritablement, je crois que c'est la condition pour débloquer la richesse qui peut être créée derrière.
Economaniac m'écrit, il faut revoir la définition du lien de subordination entre une entreprise et un freelance. Voilà.
Oui.
Et puis, ça, c'est agréable à lire, parce que c'est marre d'être pris pour un canard, qui m'écrit, j'adore votre émission et votre professionnalisme et vos invités, continuez comme ça. C'est plus sympa que celui qui, après la chronique de BFM TV ce matin, m'a juste écrit, la chronique est retweetée par la chaîne, vous savez, et il a juste pris son compte Twitter pour m'écrire, va te faire foutre.
Voilà. Dans l'autre est préférable.
Je sais pas si c'est la réponse à tout. C'est vrai que dans le domaine des VTC ou des livreurs, les enquêtes, les sondages qui ont été faits auprès de ces populations montrent qu'à une très grande majorité, ils veulent être indépendants, ils ne veulent pas être salariés. Bon, c'est le résultat de sondages auprès de ces populations. Et d'ailleurs, le résultat des élections professionnelles ont mis en avant des syndicats qui sont des syndicats d'indépendants.
Oui.
Et qui préconisent ce statut d'indépendant, la défense de statut d'indépendant. Donc, dans beaucoup de professions, effectivement, dans beaucoup d'activités, c'est voulu parce que c'est
avec des protections nouvelles.
Avec des protections nouvelles, ces personnes pour qui ça a été la possibilité de mettre un pas sur le marché du travail sont des personnes qui sont très éloignées de la possibilité, enfin, à leurs propres yeux, d'être salariées. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est généralisable à d'autres activités? Il faut y réfléchir d'une façon sereine.
François Descalves, 1 minute 40, je voudrais savoir comment vous avez vécu l'expression « la cote d'alerte est atteinte ».
Pour moi, la cote d'alerte en matière de finances publiques, c'est quand les détenteurs d'obligations du Trésor se mettent tout d'un coup à avoir peur de ne pas être remboursés et donc pour continuer à prêter, demandent une prime de risque de plus en plus élevée.
On est d'accord.
Voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça arrive. Et ça peut arriver à des niveaux d'endettement très différents en fonction de critères parfois très subjectifs comme la crédibilité des politiques publiques. Donc en France, je ne pense pas que la cote d'alerte soit atteinte. On a un spread, comme on dit, une prime de risque qui reste relativement limitée. L'Italie, elle a peut-être en effet atteint la cote d'alerte, pas nous, mais comme on ne sait pas quand ça arrive, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça veut dire qu'il faut montrer qu'on garde l'endettement public sous contrôle. Voilà.
Et généralement,
de manière...
Et si cote d'alerte est atteinte, donc si à un moment vous avez le taux d'intérêt nominal qui dépasse le taux de croissance nominal, vous êtes quand même dans une situation compliquée.
C'est plus difficile.
Donc c'est quoi? C'est là où on met 5 points de TVA d'un coup pour rassurer tout le monde? C'est là où on...
Il faut rassurer, voilà. C'est le jour où ça...
La voie, c'est plus la baisse des dépenses que l'augmentation.
Oui, mais le problème, c'est que quand vous avez, Gilbert, quand vous avez votre prime de risque souveraine qui dérape en 3 jours, il ne faut pas dire on va baisser les dépenses publiques, vous allez voir, on va faire un truc pluriannuel de 5 ans.
À force de dire qu'on ne peut pas le faire,
oui, mais
la cote d'alerte est totalement atteinte. Je suis désolé d'être en totale contradiction avec vous. On n'avait pas prévu le Covid, on n'avait pas prévu la guerre en Ukraine, on n'avait pas prévu l'inflation qu'il y avait derrière. Et si on n'a pas un tout petit peu de marge pour ce qu'on ne prévoit pas, eh bien, non. Non, la cote d'alerte est très largement dépassée pour ce qui est mon point de vue. Je me permets de vous apporter
cette... Le seul truc qui rassure un investisseur, c'est la capacité à lever l'impôt. Hein.
Bien sûr.
Donc, si t'as... Oui, c'est fini, je sais, Cédric, on y va. Et donc, tu lèves l'impôt et si vraiment c'est la cata, si t'es à 7,5, 8% sur 10 ans, tu mets 3 points de TVA et tout est calmé. Et c'est sûr que ça va bien se passer. Bon, on a fini. Merci Gilles Berset, François Eckhall, Léonidas Kalogiropoulos. Rendez-vous demain 9h.